France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, comment savoir d'où vient ce que l'on met dans son assiette? Quelle est la provenance de ce que nous consommons, surtout lorsqu'il s'agit d'aliments transformés? Sont-ils produits en France? Sont-ils importés? Comment le savoir? Que peut-on lire sur les étiquettes? Que doivent-elles indiquer précisément? Et que prévoit la loi Egalim 2 qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture? Son rapporteur, le député La République En Marche, Grégory Besson-Moreau, est avec nous ce soir. Il est en direct de sa circonscription de Troyes dans l'Aube. Bonsoir, monsieur Besson-Moreau.
Bonsoir.
Vous nous direz quels sont les objectifs de ce texte qui sera examiné par les sénateurs à la rentrée. Olivier Andreau, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être dans ce studio. Vous êtes chargé de mission agriculture alimentation à l'UFC. Que choisir? Vous nous direz-vous pourquoi cette proposition de loi vous inquiète? En quoi elle constitue pour vous un recul? Enfin, c'est ce que vous nous direz en matière de traçabilité des produits alimentaires. Et vous savez à quel point les auditeurs de France Inter sont chatouilleux sur ce point. En ligne avec nous également, Yannick Fialip. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes en direct de la Haute-Loire, on fait le tour de France ce soir, vous êtes éleveur laitier, vous faites dans les brebis également et vous êtes membre de la FNSEA. Vous allez nous dire ce que cette proposition de loi Egalim 2 changerait pour les producteurs, sachant que les consommateurs, eux, aiment savoir ce qu'ils mangent, d'autant plus qu'ils ont goûté au circuit court pendant la crise du Covid. Alors d'avance, merci à tous, n'hésitez pas à nous appeler. Je précise qu'on sera aussi en direct au cours de cette émission avec Mathias Darbon, un des fondateurs de la marque C'est qui le patron ?
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous partons dans le Loiret où nous attend Gaston. Bonsoir Gaston.
Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir retenu ma question. Ce que je disais à la personne que j'ai eue tout à l'heure, c'est que j'ai acheté il y a très peu de temps une épaule d'agneau emballée, enfin industrielle, dans une moyenne surface au centre d'Orléans. Et il y a écrit « origine de point », alors en lettres de 5 mm de hauteur, hein, UE, donc je suppose que c'est Union européenne ou hors Union européenne. Alors on est obligé de manipuler les produits pour essayer de trouver la date de péremption, ensuite de voir l'origine. En cette période de pandémie, je ne suis pas certain que ce soit vraiment une bonne technique. Et alors vous dites que la loi va encore être aggravée, donc je suis assez inquiet parce que apparemment il n'y a aucune possibilité de connaître l'origine des produits. Alors ça va être encore pire. Enfin, je ne sais pas si
alors, on va voir Gaston. Merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas si la loi va empirer les choses ou pas. Ça, c'est nos invités qui vont vous répondre sur ce point. En tout cas, Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir, sur cette question que pose Gaston, sur l'origine de cet agneau qu'il a acheté, qu'est-ce qui doit figurer sur l'étiquette ?
Au niveau européen, puisque c'est l'Union européenne qui détermine les informations d'étiquetage qu'il y a sur les produits alimentaires, en fait, il y a deux types de produits. Il y a des produits qui sont bruts, comme des fruits et légumes, de la viande fraîche, du poisson, pour lesquels il y a une obligation d'indiquer le pays d'origine. Et ça, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez faire vos courses, quand vous allez chercher, par exemple, de la volaille fraîche en rayon, des découpes de volaille, vous allez avoir toujours quasiment une origine France, ce qui montre bien que lorsque les consommateurs ont l'information, eh bien c'est essentiellement cette origine française qu'ils vont choisir.
Et pourquoi alors sur la viande qu'a acheté Gaston, il y a marqué UE ?
Alors il faudrait savoir, est-ce que c'était une viande qui était préparée ? J'imagine que c'est probablement le cas, parce qu'il y a un deuxième groupe de produits, c'est les produits qu'on appelle transformé. Et transformé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, vous prenez du lait, vous l'homogénéisez, vous le pasteurisez, c'est considéré comme transformé. Ou quand vous prenez de la viande, vous rajoutez quelques épices dessus, c'est du transformé. Et a fortiori, tous les pizzas, burgers, etc., les boîtes de conserve, tout ça, c'est du transformé. Et là, la réglementation européenne n'exige aucune indication sur les ingrédients.
Elle exige quoi, la législation européenne, de signaler que c'est un produit qui vient de l'Union européenne ?
Non, elle n'exige. Même pas. Le fabricant n'est obligé d'indiquer aucune origine sur les ingrédients. Il a juste à mettre sa liste des ingrédients, la différente composition, mais en termes d'origine, rien. En revanche, et c'est ça qui est important, c'est que en 2016, il y a eu une obligation spécifiquement française que nous avons arrachée, nous, les consommateurs, mais aussi le monde agricole, parce que il y avait cette opacité qui entraînait d'une part la possibilité pour les industriels de faire importer des matières premières à bas coût. Et donc, on sait, par exemple, que en termes de viande de volaille, les volailles les moins chères en Europe, ça va être par exemple en Pologne, mais hors de l'Union européenne, ça va être le Brésil ou la Thaïlande. Et là, cette information n'était pas donnée aux consommateurs. Et donc, même chose pour des ingrédients laitiers. Et pour les produits transformés, il n'y avait pas cette information. Et donc, c'est pour ça que cette coalition d'intérêts entre les consommateurs et le monde agricole a motivé le gouvernement précédent à arracher cette possibilité à la Commission européenne d'indiquer de manière obligatoire l'origine des ingrédients laitiers et carnés dans les produits transformés. Donc, c'était vraiment une grande avancée. Petit problème, il y a un industriel, Lactalis, auquel il considérait que cette disposition n'était pas conforme avec le droit européen. Il l'a attaqué auprès de la Cour de justice en 2018. Il a gagné et de fait, ça a été...
La Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg.
Voilà. Et de fait, le Conseil d'État français a confirmé cette décision en début de cette année. Et donc, on n'a plus l'étiquetage sur l'origine des ingrédients laitiers. La question qui se pose, quid prochainement de l'étiquetage sur l'origine des ingrédients carnés? Est-ce que ça va tomber également?
Eh bien, on va poser la question à Grégory Besson-Moreau pour savoir si cette loi Egalim numéro 2 peut éventuellement répondre à cette question qui se pose aujourd'hui, monsieur le député.
Alors effectivement, j'ai plein de points d'accord avec monsieur Andreau, qui a complètement raison sur tous les sujets qu'il vient d'aborder. Après, je mettrai je pense qu'il faut rentrer un petit peu dans le détail. Effectivement, Lactalis, pour ne pas le citer, a gagné son procès devant la Cour de justice et a fait tomber le décret qui était franco-français. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que les industriels utilisent cet argument made in France, produit de France, produit agroalimentaire ou agricole français, comme un argument de vente. Donc l'obligation n'est peut-être pas là, mais la possibilité de le faire, elle est encore présente. Effectivement, moi je me désole de la décision qui a été prise et du fait que l'origine française du lait ne soit plus une obligation. Bon. En revanche, ce que nous avons fait dans cette loi dite Egalim 2, que je porte et que je travaille depuis plus de 3 ans, c'est de rendre obligatoire l'origine du pays, qu'il soit UE ou non UE. Donc, on rend cette obligation d'origine maintenant obligatoire sur l'ensemble des produits transformés, dès lors que les propriétés et leur origine sont clairement différentes des produits français. Je suis même allé beaucoup plus loin, puisque s'il y a une protection du consommateur ou une protection sanitaire différente, on sera obligé de mettre cette mention « origine ». Donc, on est allé beaucoup plus loin. Maintenant, comme le disait M. Andreau, et je le rejoins complètement, pour les étiquetages, c'est une compétence dite européenne. Et cette compétence, nous ne l'avons pas chez nous. Et donc, nous devons travailler à la faire évoluer. Et c'est pour ça que le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie, s'est engagé à maintes reprises à faire évoluer justement cette directive européenne lors de la présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier.
Alors ça, c'est effectivement ce qui va se passer un petit peu plus tard. Sur cette loi, Olivier Andreau, qu'est-ce que vous répondez, vous, à Grégory Besson-Moreau? Vous n'avez pas tout à fait la même lecture du contenu de la loi Egalim?
Nous, ce que nous disons sur cet aspect de la loi Egalim, hein, puisqu'il y en a d'autres.
Hein, le reste, hein, mais effectivement, on s'intéresse plutôt à ce qu'il y a dans notre assiette.
Tout à fait. Hein, sur cet aspect de l'origine des ingrédients, nous, ce que nous disons, c'est que la modification qui a été faite dans le Code de la consommation, ou qui va être faite peut-être, nous espérons que non, dans le Code de la consommation à travers cette loi, elle a pour effet de reprendre une condition léonine qui figure actuellement dans un règlement européen, qui dit quoi? Qui dit un État membre, comme la France, peut certes, en théorie, rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine du lait ou de la viande ou d'autre chose, sous deux conditions. D'une part, qu'il y ait une demande des consommateurs, ça elle a toujours été présente, cette demande des consommateurs. Mais surtout, que l'État membre puisse démontrer le lien entre les caractéristiques du produit et l'origine. En clair, il faut que, par exemple, le lait de Belgique soit différent du lait de France en termes gustatifs ou autres, ou il faut que le porc danois ou, je sais pas, la volaille thaïlandaise soit différente d'une manière explicite par rapport à ces, à la volaille ou au porc français. Et ça, c'est quasiment impossible à démontrer. Et c'est précisément sur cette disposition européenne que Lactalis a réussi à faire tomber le décret français. Donc, faire rentrer dans le droit français une disposition européenne qui fragilise l'étiquetage de l'origine, pour nous, c'est quelque chose qui va à rebours de la demande de transparence des consommateurs.
Alors, Grégory Besson-Moreau, je crois que vous voulez encore répondre à Olivier Andrew, puis ensuite, on ira voir notre ami éleveur dans la Haute-Loire.
Oui, bien sûr. Non, je comprends bien le point de Monsieur Andrew, mais n'oublions pas que nous sommes un des États membres et que nous ne pouvons pas aller en permanence contre les décisions européennes. Il est logique aujourd'hui que la France prenne cette décision qui est de s'aligner sur le droit européen. En revanche, nous avons la possibilité d'aller plus loin. Et c'est exactement ce que nous faisons. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation de la mention de l'origine du produit agricole. Avec cette loi, ce sera obligatoire. Alors effectivement, on va devoir justifier, les industriels vont devoir justifier maintenant pour l'ensemble des produits transformés qu'on achète, qu'il n'y a aucune différence entre leur pays d'origine et la France. Qu'il n'y a aucune différence entre la sécurité sanitaire de leur pays et la France. Moi, je peux vous assurer, j'étais rapporteur de la commission d'enquête sur le scandale Lactalis. La sécurité sanitaire de notre pays, on n'a pas du tout en rougir, on est considéré comme les deuxièmes après le Japon. Donc beaucoup, beaucoup de produits transformés vont re-rentrer, entre guillemets, dans cette réglementation purement française, et les mentions d'origine des pays UE ou hors UE reviendront sur les emballages.
Merci Monsieur Besson-Moreau et merci pour les petits oiseaux qui sont pas loin de vous. On va partir dans la Haute-Loire retrouver Yannick Fialip de la FNSEA. Peut-être un point de vue vous aussi sur cette loi Egalim 2, enfin sur ce point très précis qui concerne l'indication de la provenance des produits. Vous êtes là, Yannick Fialip ? Je crois qu'on vous a perdu. Oui, on l'a perdu. Ce n'est pas très grave. On va repartir au standard de France Inter. En attendant, on va aller dans le Tarn retrouver Jean-Marc. Bonsoir,
oui,
Jean-Marc.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir. Bienvenue. Écoutez, merci. Merci de prendre ma question. Donc moi, ma remarque était dans la continuité de la discussion qui vient d'avoir. Donc on vient de voir toute la difficulté pour mettre en place une réglementation d'étiquetage avec un étiquetage à 5 mm tout petit derrière le produit, tout ça. Voilà. Et par contre, je suis assez surpris et très souvent choqué qu'en fait, on ne fait jamais rien contre ce qui est de la publicité mensongère. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne vais pas citer des marques, mais on vous montre des poulets qui gambadent dans la campagne, que même ceux de ma grand-mère, ils seraient jaloux de la surface qu'il y a, alors qu'en réalité, on sait très bien que ce n'est pas du tout produit comme ça. On vous montre un chef cuisinier dans une cuisine qui ressemble au Ritz, qui dit qu'il cuisine ses jambons, il cuit ses jambons avec amour et tout ça, alors qu'en réalité, on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Et toutes ces publicités...
Ah bah décidément, on joue de malchance ce soir. On vous perd, Jean-Marc. Mais sur cette question de... Jean-Marc nous parle de publicité mensongère. Olivier Andrew, qu'est-ce qu'on peut lui dire ?
L'UFC que choisir, on est absolument d'accord avec son point de vue. C'est qu'on a une réglementation qui est globalement assez laxiste pour les industriels en termes de présentation des caractéristiques de leurs produits. C'est pour ça qu'on va monter en épingle l'intérêt supposé nutritionnel de telle vitamine ou telle minérale, alors que personne n'en manque. Donc c'est clair que nous, à l'UFC que choisir, depuis des années, nous défendons auprès des autorités européennes une réglementation beaucoup plus stricte et beaucoup plus protectrice.
Vous souhaitiez rajouter un point là-dessus, Grégory Besson-Moreau ?
Oui, effectivement. Il faut rappeler aussi, dans la loi, nous venons rajouter aussi le fait d'interdire l'imposition de symboles français, comme le drapeau français, comme l'hexagone, sur des produits dont les matières premières agricoles ne viendraient pas de France. Ça, nous l'avons fait rajouter dans la loi, ce qui est une protection supplémentaire, d'ailleurs, pour notre monde agricole. Et puis, dans la loi, il y a aussi... Aujourd'hui, l'interdiction de dire, par exemple, des saucisses de Strasbourg, si les saucisses ne viennent pas de Strasbourg, il faut expliquer d'où viennent les saucisses. À partir du moment où il y a une appellation géographique, maintenant il y a interdiction de ne pas marquer l'origine. On est obligé de mettre l'origine du produit sur la boîte de conserve ou le produit transformé. Donc ce sont quand même des avancées. Je suis d'accord avec M. Andrew sur le fait qu'on souhaiterait que ces avancées soient plus fortes. Maintenant, ce sont des décisions européennes. Tout ce que l'on peut faire au niveau français, le législateur le fait. Nous ne faisons jamais de marche arrière, nous n'allons qu'en avant. Maintenant, nous souhaiterions évidemment aller beaucoup plus loin, mais c'est toujours un petit peu difficile.
Merci. On a retrouvé Yannick Fialippe de la FNSEA. Rebonsoir, monsieur Fialippe. Globalement, cette loi EGalim 2, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la parcourir, c'est une avancée ou pas pour ce qui est de la connaissance de l'origine des produits ?
Oui, je pense que on a fait un travail de lobbying aussi agricole pour améliorer cette loi, parce que c'est pas toujours simple avec les législateurs. Mais de rappeler quand même trois points. Le premier, c'est que si on veut des produits d'origine France, il faut qu'on soit en capacité de les produire en France. Et que le premier point de la loi, c'est quand même redonner de la valeur au prix payé chez les producteurs. Je rappelle qu'en France, notamment l'auditeur de tout à l'heure nous a dit qu'il avait acheté de l'agneau qui n'est pas de France. En globalité, un agneau sur deux qui est mangé en France n'est pas produit en France parce que faute de compétitivité, il est importé venant de Nouvelle-Zélande ou d'Angleterre. C'est un peu la même chose sur les poulets et sur les fruits et légumes, sur certains fruits. Et donc, du coup, la loi vise à remettre du prix payé aux producteurs pour qu'on reproduise en France. Le deuxième point, c'est qu'à travers la crise Covid, un certain nombre de nos concitoyens se sont aperçus qu'il était essentiel que l'on ait de la production française dans nos assiettes et donc se sont rapprochés des circuits courts, mais aussi insuffler, je dirais, un message auprès de la grande distribution qui aujourd'hui, certes, continue à baisser quelquefois les prix des denrées alimentaires, mais se différencie entre grands distributeurs sur l'origine des produits et il n'y a pas un distributeur français aujourd'hui qui ne met pas en avant l'origine française sur la publicité de ses produits. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des évolutions.
Le troisième point... Grâce aux consommateurs, peut-être.
Comment ?
Grâce aux consommateurs qui sont en attente.
Grâce aux consommateurs, effectivement, c'est grâce aux consommateurs qu'on a eu ces évolutions. Le troisième point, c'est M. Besson-Meureau qui a dit qu'à travers la loi, on avait porté un certain nombre de positions. Et on remercie cette loi qui va donc interdire la position du drapeau français si une partie des ingrédients ne sont pas d'origine française. Et je dirais que M. Besson-Meureau, il appartiendra à votre gouvernement aussi dans le cadre de la présidence européenne que la France va prendre au 1er janvier, de porter ces éléments-là pour convaincre d'autres pays et donc la Commission européenne de faire évoluer la législation. Et comme le disait le représentant du FC que choisir, si on arrive à avoir cet élan-là au niveau européen, on aura des choses qui s'amélioreront et l'agriculture française et européenne s'en sortira d'autant mieux qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans cette logique de prix bas qui vise à détruire des producteurs et de la production et à ne pas satisfaire nos consommateurs.
Merci Monsieur Fialippe. Olivier Andreau, j'aimerais savoir pourquoi certains membres de la grande distribution, de l'agroalimentaire plutôt, ne veulent pas faire figurer l'origine sur les produits. Qu'est-ce qu'il y a à cacher ? C'est quoi le problème ?
C'est très simple. C'est pour préserver leur marge. Ce qu'il faut savoir, c'est que au cours des dernières décennies, la fonction d'acheteur, qui est une fonction fondamentale, hein, l'objectif, c'est de savoir est-ce que les matières premières que je vais mettre dans mon produit sont de bonne qualité. Et bien, cette fonction, progressivement, s'est changée en trader. L'objectif étant de pouvoir acheter les matières premières n'importe où sur le globe, mais les moins chères possibles à un moment donné. Et donc, vous comprenez bien que dans cet objectif de maximiser les marges, certains acteurs de l'industrie agroalimentaire n'ont pas forcément envie d'indiquer toutes les origines assez diverses de ces matières premières. C'est tout simplement ça, l'origine du lobbying de l'industrie agroalimentaire qui, en 2011, lors de la rédaction de la réglementation européenne dont on faisait, à laquelle on faisait référence, a dépensé, tenez-vous bien, pas moins de 1 milliard d'euros sur les différentes dispositions de ce futur règlement pour empêcher qu'il y ait notamment plus de transparence. Alors par rapport à ça, par rapport à cette réglementation, cette loi française j'insiste, est totalement insatisfaisante. Nous disons que la guerre n'est pas terminée puisqu'elle doit maintenant passer au Sénat. Il est clair que nous allons redemander aux sénateurs de tenir compte de la demande de transparence des consommateurs français. Et puis, aux consommateurs, moi, je leur donne un conseil consumériste. Si vous voulez savoir d'où viennent les ingrédients des produits que vous achetez, regardez les listes des ingrédients. Et si vous êtes en faveur de l'opacité, eh bien, ne choisissez pas ceux sur lesquels vous n'avez aucune indication de l'origine ou où c'est indiqué UE ou non UE. Ça n'est pas de la transparence.
Grégory Besson-Meureau, une petite question sur un autre point de votre proposition de loi, puisque Monsieur Andreau nous parlait des marges, évidemment, de l'industrie agroalimentaire. Je crois que vous avez prévu d'indiquer un numéra-score. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, effectivement, c'est un rémunéra-score.
Rémunéra-score, pardon.
Qui permet, le nom. Pour l'instant, le nom est encore rémunéra-score. Peut-être qu'il sera appelé à changer. Il sera appliqué sur des filières qui sont volontaires pour mettre en place rémunéra-score. Et en fait, tout simplement, en fonction de certains critères, il y aura une classification de la rémunération des agriculteurs qui auront produit cette matière première. Et puis, un peu à l'image de ce que vous savez, le Nutri-Score, où on va de A à E, eh bien, on saura si ceux qui ont produit ont été rémunérés à leur juste valeur en fonction de ce qu'on a mis en place dans la loi Egalim il y a 3 ans, qui s'appelle l'indicateur de coût de production. Voilà ce qui a été mis en place pour le Rémunérascore.
Alors ça fait penser aussi un petit peu à la logique de ce qu'a fait la marque C'est qui le patron. On est en ligne avec Martial Darbon, un des cofondateurs de la marque. Bonsoir monsieur Darbon.
Bonsoir.
Producteur de lait à la retraite désormais.
Oui.
Le principe de C'est qui le patron, c'était effectivement de pouvoir garantir les moyens de vivre aux producteurs tout en donnant aux consommateurs le maximum d'indications. Quel regard vous portez, vous, sur cette loi Egalim 2?
Moi, je vous ai tous bien écouté et bon, on se connaît pour un certain nombre d'entre nous. Bonsoir Yannick. Et c'est vrai que nous, quand on a démarré en 2016, c'était très compliqué. Voilà, on perdait de l'argent, on était voué à un échec complètement économique de l'effondrement des cours et on allait se trouver sans déboucher. Et puis on a eu cette petite idée géniale de Nicolas Chabanne de dire si on faisait un questionnaire et si on demandait aux consommateurs combien ils sont prêts à payer, quel est le cahier des charges, et puis rentrer dans un vrai dialogue de vote et d'accéder à un prix et de fixer et de faire tous ensemble une élaboration du prix reconnu et transparent. Voilà. Et surtout contrôlé. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu cette idée de créer cette marque qui appartient aux consommateurs. Hein. Ils sont aujourd'hui 10 000 à avoir donné 1 euro et à contrôler cette marque de produits. Et notre litre de lait, c'est les Français qui ont choisi le prix, 39 centimes payés aux producteurs, pour un prix final de 99 centimes, qui ont respecté tout au long de la chaîne de valeur et qui se sont engagés. Et puis, on a arrivé à même, dans un deuxième temps, écrire le prix final sur le produit, intégré dans l'emballage. C'est comme ça qu'on a mis prix voté et souhaité par les consommateurs.
Et ça, voilà. Ça rejoint un petit peu le Rémunérascore, le principe.
On est d'accord. À part que nous, il est réel. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est réveillé un jour très vite, parce qu'on nous prévoyait un petit score de volume. Et aujourd'hui, on a fait 10 fois le volume qui a été lancé. La première entreprise qui est l'SDH, qui nous a accompagnés dans le dossier du lait, nous a profondément aidés. Et aussi a eu tout intérêt de jouer le jeu, parce que les distributeurs comme les industriels sont rémunérés correctement, puisque les chiffres sont validés par les entreprises auprès de l'association des consommateurs. Et on a ainsi sécurisé et permis aux produits. Voilà, on a pas de jambes de bois dans C'est qui le patron, parce que la totalité, bien sûr, on est rentré dans une démarche volontaire. Hein, les producteurs ont un contrat engagé avec la marque, mais ça permet aussi surtout
Transparence, monsieur Darbon, sur l'origine, vous pensez que de toute façon, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de savoir d'où vient le produit qu'ils ont dans leurs assiettes?
Bah écoutez, vous savez, on nous a dit quand Monsieur Besson Moreau a démarré la première, quand on a démarré la première Egalim 1, ça semblait que c'était la panacée. On a vu que très vite il faut faire des amendements. La loi Egalim 2, on aura d'autres. Aider à faire rentrer dans cette forme de lecture de la loi les associations de consommateurs. On trouvera toujours un accord entre un groupe de producteurs et un groupe de consommateurs pour élaborer et le meilleur. Gendarme, c'est effectivement celui qui agit sa carte bleue et qui achète à la ligne, hein, qui achète au bout. Et c'est sûr que quand ils sont avec nous dans les négociations auprès des distributeurs, quand ils sont avec nous, on est auprès des discussions au niveau des industriels, on a profondément changé les curseurs de respect de cette échelle de valeur. Et je vais dire, les 39 centimes, ils sont en aucun cas remis en cause par quiconque. On parle de plein d'autres choses et même éventuellement de l'évolution future de face à l'évolution au climat, au mode d'élevage, etc.
Alors on ne va pas rentrer dans ces débats-là qui sont effectivement un petit peu annexes, même s'ils sont absolument essentiels. Merci beaucoup Martial Darbon. J'aimerais avoir votre regard, Olivier Andreau, sur ce genre de démarche. On va vers ce genre de transparence?
C'est sûr qu'il est nécessaire de pouvoir connaître la construction des prix alimentaires. Ça, c'est quelque chose que l'UFC Que Choisir réclame depuis plus d'une quinzaine d'années. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui sont quand même assez saisissants. Sur des fruits et légumes, quand on quand on paye, quand on va donner 1 euro du kilo, par exemple, pour un fruit ou pour un légume, on imagine que l'essentiel va aller dans la poche de l'agriculteur qui est à l'origine de ces produits. Ben, c'est pas le cas. On a au maximum 50% du prix qui va revenir à l'agriculteur. Et ça, c'est le cas le plus favorable. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les produits transformés, qui sont les produits qu'on consomme le plus maintenant, vous savez, on ne consomme plus beaucoup de produits bruts, dans les produits transformés, les boîtes de conserve, les plateaux préparés, etc., on estime qu'en moyenne, la part du prix payé par le consommateur qui revient au niveau agricole, aux agriculteurs, c'est de l'ordre de 10% seulement. Donc, vous voyez, même s'il y a une partie qui est justifiée, au niveau de la transformation industrielle, le transport, l'énergie, etc., on voit qu'une grosse partie est constituée de marge brute au niveau des industriels, mais aussi de la grande distribution. Donc ça veut dire que la transparence, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Nous, on demande que ce niveau de marge soit publié, enseigne par enseigne, fabricant par fabricant.
Grégory Besson-Moreau.
Mais en fait, je vais pouvoir rassurer M. Andrault, puisque la loi que j'ai rédigée et que j'ai fait voter à l'Assemblée nationale à l'unanimité, c'est exactement cela. C'est justement la construction du prix en marche avant. En quelques mots, c'est très simple. On parle d'un indicateur de coût de production, c'est-à-dire qu'est-ce que le bon prix payé pour un agriculteur, pour un producteur. Ce prix, une fois qu'il est contractualisé entre un industriel et l'agriculteur, eh bien, on le rend transparent. C'est-à-dire qu'on impose à l'industriel de dire à quel prix il a payé l'agriculteur, le producteur, l'éleveur. Et ce prix, le met dans le contrat qu'il a avec la grande distribution, que ce soit pour des prix des matières brutes ou que ce soit pour des plats ou des produits transformés. Vous êtes obligé de le faire. Et quand un industriel viendra demander une hausse de prix à la grande distribution, il sera obligé d'être transparent sur le prix payé à l'agriculteur français pour un produit qui est transformé en France. Donc c'est exactement ce que l'on a fait. On a construit vraiment en marche avant le prix en respectant la digne rémunération des agriculteurs à partir du moment où le produit est français. Et en plus de cela, j'ai mis en place une mécanique dite d'indexation. C'est-à-dire que lorsque les matières premières pour les agriculteurs augmentent, ce n'est pas à l'agriculteur d'être une variable d'ajustement, c'est à l'industriel de prendre cette hausse en charge, et donc à la grande distribution, et donc au consommateur. Le consommateur doit avoir des prix qui soient des prix accessibles, mais qui soient des prix justes et qui rémunèrent dignement les agriculteurs. C'est pour ça que la marque C'est qui le patron, moi je ne peux que me féliciter d'avoir une marque comme ça en France. Et la loi, pour être très honnête, elle a été créée en regardant ce qui s'est fait chez C'est qui le patron. Ça marche à une petite échelle. Faisons-le pour le monde agricole et la souveraineté agricole française. Voilà ce qui est le concept de cette loi.
Merci Monsieur Besson-Moreau. Yannick Fialip de la FNSEA voulait réagir pas trop longuement parce qu'on a plein d'appels et on va retourner au standard juste après. Monsieur Fialip, c'est à vous.
Oui, très rapidement, de dire quand même que ça appartient aussi à chaque consommateur et citoyen français de faire un effort pour garnir son assiette de produits français. Et c'est vrai que ce qui s'est passé ces 50 dernières années où on a diminué sans cesse le budget alimentaire de l'ensemble français pose question et c'est le type de développement que l'on veut pour demain qui est remis en cause. Et donc Egalim 1 a arrêté cette déflation des produits alimentaires et donc Egalim 2, on espère nos producteurs, permettra d'avoir une meilleure rémunération des producteurs.
On va retrouver Julien qui patiente depuis plus de 20 minutes au standard de France Inter. Bonsoir Julien.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir
merci
attendu.
Merci de prendre ma question. Moi, je m'inquiète en fait des OGM. Et je voulais savoir quel risque j'avais de manger des OGM dans mon alimentation sans que je le sache. Sachant qu'en plus, il y a plusieurs possibilités de modification du génome et que certaines ne sont pas qualifiées d'OGM et donc ne rentrent pas dans cette catégorie.
Merci pour cette question, Julien Olivier Andrault. De l'UFC que choisir vous répond.
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a effectivement les OGM qu'on pourrait manger directement par le biais de notre alimentation. Et effectivement, il y a encore première chose, donc les anciens OGM, donc où on va intégrer par exemple un ADN qui vient d'une espèce complètement différente dans une autre espèce. Cela, ces OGM, s'il y en avait, ça devrait être obligatoirement indiqué sur la liste des ingrédients. C'est une réglementation ancienne qui date des années 80. Et donc, de ce fait, les industriels ne prendront jamais le risque de mettre ces OGM anciens directement notre alimentation. En revanche, il y a ces nouveaux OGM, entre guillemets, qui ont été obtenus en les soumettant, par exemple, à des radiations ou en tout cas pour générer des modifications spontanées du génome, de l'ADN. Et donc, ces OGM-là ne sont pas considérés comme des OGM par la réglementation européenne. Et donc, on n'a pas l'information. Effectivement, ça, c'est une bonne question. Et par ailleurs, il y a un autre type d'OGM sur lequel on n'est pas informé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les OGM qui sont donnés aux animaux d'élevage, donc les veaux, vaches, cochons, poulets, et dans l'alimentation traditionnelle, donc l'élevage conventionnel, ils reçoivent en général, dans une partie de leur alimentation, des OGM. Ça va être par exemple des tourteaux de soja OGM. Et là, cette information, elle n'est pas donnée sur l'emballage des produits qui vont être donnés aux consommateurs. En revanche, là, si on ne veut pas manger ce type d'OGM, c'est très simple, il faut manger bio, puisque le cahier des charges de l'agriculture biologique s'interdit ce type d'OGM, dans tous les cas.
On a aussi des questions par mail, et notamment Lucille, qui nous interroge sur la question du bien-être animal. Est-ce qu'il y a des indications à ce sujet, sur les étiquettes ?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Pour le moment, non, il n'y a aucune indication obligatoire sur le bien-être animal. Mais vous êtes peut-être au courant qu'il y a une loi qui a été passée l'année dernière sur le gaspillage et aussi sur l'indication d'un éco-score, d'un score environnemental sur les produits alimentaires, hein, et qui est obligation qui est reprise d'ailleurs dans la loi climat qui est actuellement, qui est en train de finir son examen au Parlement. Et donc qui dit quoi ? Qui a pour objectif de donner un petit peu comme le Nutri-Score, hein, donc une information colorielle sur l'impact environnemental du produit alimentaire que vous allez acheter. C'est une très bonne nouvelle, c'est important, hein, parce que vous savez que par exemple les produits d'origine animale comme le lait ou la viande peuvent avoir un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus important que les produits d'origine végétale. Même chose en ce qui concerne les produits bio qui ont globalement un impact environnemental qui est bien moindre que les produits de l'agriculture intensive. Et donc c'est la raison pour laquelle donc nous, ONG, associations de consommateurs, associations environnementales et aussi acteurs de la filière bio, eh bien nous allons très prochainement transmettre à l'ADEME, au ministère de l'Environnement, nos propositions pour ce futur score environnemental, de manière à ce que le consommateur soit parfaitement informé sur l'impact de ce qu'il mange.
On va repartir au standard. Cette fois, c'est Fred qui est en ligne. Bonsoir Fred.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir patienté.
Merci, c'est gentil. Alors du coup, j'aurais voulu poser la question de comment croire en cette loi, puisque la loi Egalim 1, qui promettait 20% de bio et de local dans la restauration collective, pardon, a été transformée par l'apparition d'un label qui s'appelle HVE, Haute Valeur Environnementale, et qui a été mis en place en fait pour contourner l'objectif de départ qui permet de réduire la proportion de bio et de local, enfin surtout de bio dans la restauration collective, et que la prochaine PAC en fait diminue les aides qui sont promises pour les agriculteurs bio. Du coup, je me pose vraiment la question de est-ce qu'on veut du bio ou pas en France, puisque la PAC prochaine réduit les aides. Merci.
On pose la question à Grégory Besson-Moreau.
Oui, alors. Vous savez, le produit bio, déjà, il faut l'avoir en disponible. Le label HVE est un label qui est un label déjà très grande avancée. Alors, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'on ait remplacé le bio par le HVE, parce qu'on le voit dans beaucoup de restauration collective et autres où on atteint les objectifs. Moi, par exemple, sur la région Grand Est, nous avons atteint les objectifs. Donc, je suis pas spécialement d'accord sur l'analyse qui en est faite. Et au niveau de la PAC, c'est exactement la même analyse. On n'est pas sur une baisse aujourd'hui de l'investissement ou des subventions PAC sur le bio. C'est juste qu'il y a une différence entre le maintien et les aides à la conversion. Aujourd'hui, on est dans une filière bio qui rémunère plutôt correctement. Et effectivement, le maintien a été transféré. Et ce sont aussi aux régions maintenant de prendre cette responsabilité financière des aides pour le bio. Sur les aides à la conversion...
Je vais vous presser un petit peu, monsieur Besson-Moreau, oui.
Ouais. Sur les aides à la conversion, en revanche, on aide de plus en plus, et je tiens à rappeler que ce qui a été négocié aussi dans la PAC, c'est une aide pour l'installation de jeunes agriculteurs. Et on voit aujourd'hui, statistiquement, les jeunes agriculteurs, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent faire du bio. Donc je pense qu'il faut consacrer la PAC plutôt à de l'investissement pour aider ces jeunes agriculteurs qui veulent garder cette souveraineté alimentaire française et européenne.
Yannick Fialip, dans la Haute-Loire, veut réagir.
Oui, effectivement, j'étais un peu surpris par l'auditeur qui dit que les aides à l'agriculture biologique vont baisser, parce que ce n'est pas totalement vrai, et je crois qu'il y a même une augmentation dans la PAC des aides, notamment à la conversion, qui vont être mises en œuvre, parce qu'il y a plus d'agriculteurs qui veulent faire de l'agriculture biologique, donc il faut plus de budget, donc c'est aussi à voir dans le schéma. Et après, aujourd'hui, clairement, on demande à ce que ce soit le prix payé aux producteurs qui garantissent l'agriculture biologique en France, et c'est vrai qu'on a un certain nombre de filières qui sont un peu en souffrance en ce moment sur la production biologique. Mais après aussi, dans les demandes que l'on a pu entendre, et notamment de notre collègue du FC Que Choisir, l'agriculture française est plutôt vertueuse et s'est engagée dans un certain nombre de transformations essentielles qui visent à faire mieux sur le bien-être animal, à utiliser moins de pesticides, à baisser les antibiotiques dans l'élevage, et ce qu'on a fait déjà en 10 ans, on a baissé de 50% l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage, et on fera encore mieux demain. Il faut faire attention parce que les produits qui viendraient en France, qui seraient de l'importation, n'ont pas à subir ce type de marketing, et donc on risque d'avoir de l'import de produits, si on prend pas garde, qui ne respecteront pas les mêmes conditions sanitaires, sociales aussi, et environnementales. Donc c'est un vaste débat, et c'est bien pour ça que l'origine française doit prendre le dessus. Il y a des très bons produits conventionnels en France, il y a des très bons produits biologiques.
Merci Monsieur Philippe.
Très bons produits marketés. Donc voilà, donc je crois que c'est le choix du consommateur à choisir plutôt l'origine France qui garantit aussi un développement de la filière et donc de l'emploi en France pour demain.
Merci Monsieur Philippe. L'heure tourne. Olivier Andreau, je vous voyais réagir là. Vous souhaitiez répondre à plein de questions.
Bon, écoutez, là, rapidement, deux points. Je peux absolument pas adhérer ce qui vient d'être dit sur la PAC. Tout d'abord, il est clair que toutes les ONG environnementales et les associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir, nous avons demandé des modifications fortes au niveau de l'attribution des aides de la PAC. Nous n'avons pas été entendus par le gouvernement français, absolument pas. Nous voyons qu'il y a une baisse des aides globales au niveau des acteurs de la bio. C'est complètement à contre-courant de l'évolution du climat, de la demande du consommateur. Donc il est important qu'on nous entende au niveau européen, et il est important aussi que le consommateur, à travers son acte d'achat, eh bien privilégie ce type de produits qui sont réellement protecteurs de l'environnement.
Je vous soumets très très rapidement deux remarques d'auditeurs par mail. Patrice qui dit, on parle un peu trop des origines françaises, ne vaut-il pas mieux pour un Lorrain acheter un produit allemand sain de proximité que le même produit français provençal? Et c'est marrant parce que Marianne qui est à Perpignan, elle dit, je préfère acheter une tomate de Gérone en Espagne qu'une tomate de Bretagne. Ça, c'est la proximité. proximité.
Eh bien, d'où l'intérêt, vous voyez, d'un score environnemental qui pourra vous dire en un clin d'œil, comme le Nutri-Score, si globalement votre tomate bretonne ou votre tomate conventionnelle est mieux ou moins bien placée qu'une tomate bio, quelle que soit son origine.
Voilà, et sur les circuits courts, et ce sera le mot de la fin, Anne-Claire sur l'appli qui nous dit, j'habite en Normandie, j'ai pas envie d'acheter du beurre de Charente. Non, voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup Olivier Andreau d'être venu ce soir. Un très grand merci aussi à Yannick Philippe, à Grégory Besson-Moreau. Je vois qu'on n'a pas épuisé le sujet, on y reviendra de toute façon. Le texte sera au Sénat à la rentrée. Merci à tous.